France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au début du XIIIe siècle, le moine et mathématicien Jean Sacrobosco rédigeait l'un des ouvrages d'astronomie les plus lus de tous les temps, le Traité de la Sphère. Ce manuel pédagogique a en effet connu une longévité record et a fait partie des livres d'astronomie les plus commentés en Europe durant 4 siècles avant l'arrivée de Copernic. Que trouve-t-on dans les pages de ce petit traité et comment a-t-il alimenté l'histoire de l'astronomie ? Science Chrono part aujourd'hui à la découverte de ce vrai best-seller de médiéval, le Traité de la Sphère. Et bonjour Violaine Giacomotto Chara.
Bonjour Antoine Beauchamp et bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes professeur de littérature et langue de la Renaissance et vous enseignez aussi l'histoire des savoirs à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous êtes co-autrice avec Sylvie Nonny du livre « La Terre plate, généalogie du nid des fosses » paru aux éditions des Belles Lettres et réédité en poche dans la collection Folio Histoire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir nous parler de ce traité d'astronomie qui a connu un très grand et très long succès. Alors avant de partir à la découverte de ce traité de la sphère, je vous donne le menu de la deuxième partie de notre émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, nous parlerons d'une découverte toute fraîche qui a fait grand bruit. On vient de retrouver dans le nord de l'Espagne, sur le site d'Atapuerca, le plus vieux fossile humain d'Europe de l'Ouest, daté de plus d'un million d'années. On verra tout à l'heure comment cette découverte repose la question du premier peuplement de l'Europe, mais vient également compléter l'arbre généalogique des espèces appartenant au genre Homo. Et tout de suite, on revient à une période moins lointaine dans Science Chrono. Avec vous, Violaine Giacomotto Chara, on installe nos quartiers dans la ville de Paris au Moyen-Âge. Alors avant de décrire en détail le contenu des pages de ce véritable best-seller, je le disais, que fut le Traité de la Sphère, j'aimerais que vous nous aidiez à dresser le portrait de son auteur. Qui était Jean Sacrobosco, autrement nommé Johannes Sacrobosco, ou John of Holywood, ou Jean de Halifax, puisque son nom a quelque peu varié et a plusieurs variantes.
Alors oui, sur Jean de Sacrobosco, on ne sait pas grand-chose. Les variations de son nom auxquelles vous faites allusion, en fait, renvoient au fait qu'on le donne dans plusieurs langues, en anglais, en français ou dans la version latine Sacrobosco, littéralement le bois sacré. Et ça n'est pas un nom de famille, hein, c'est comme toujours dans la langue, à l'époque médiévale, un nom d'origine. Donc on ne sait pas grand-chose, c'est un clerc. Très probablement anglais, mais il y a eu des hypothèses pour une origine écossaise. Très probablement anglais quand même. Nous n'avons pas de date de naissance. Nous n'avons pas non plus de lieu de naissance certain.
Il serait enterré à Paris, oui.
Voilà. Alors, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il est arrivé à Paris dans les années 1220 avec un bagage mathématique. On ne sait pas comment il a été formé, où est-ce qu'il a fait ses études. On ne sait pas exactement quel diplôme il pouvait avoir, mais il commence à enseigner dans les années 1220, ça c'est sûr. Et il est resté à Paris toute la fin de sa vie, puisque effectivement, hein, c'est là qu'il est mort. Alors, il y a des hypothèses là aussi un peu différentes. On date sa mort ou plutôt en 1226, au plus tard en 1256, ce qui laisse quand même une bonne marge.
Une petite marge, surtout
mais
pour cette période.
Mais en tout cas, il est enterré à Paris.
Il est enterré à Paris. Alors, vous parliez de son enseignement. Dans quel cadre enseignait Jean Sacrobosco ? À quoi ressemblait finalement l'enseignement typique de l'université à cette époque-là, sachant que les universités commençaient tout juste à fonctionner ?
Alors ça, c'est un peu difficile à dire parce que quand il arrive à Paris, l'université de Paris vient juste d'être fondée. Les statuts qui sont ceux de Robert de Courson sont tout récents, 1215, donc il est là juste quelques années après. Donc il est probable qu'il a participé à la mise en place de ce système nouveau qui était en fait une réunion des écoles existantes. Alors ce qu'on sait quand même, parce que c'est bien défini dans les statuts de fondation, c'est que l'enseignement des mathématiques fait partie de ce qu'on appelle l'enseignement des arts libéraux, donc un héritage de la fin de l'Antiquité dans lequel on définissait deux grands ensembles de disciplines, le trivium, les trois voies, littéralement, donc grammaire, rhétorique et dialectique, et puis le quadrivium, les quatre disciplines mathématiques, avec l'algèbre, la musique, l'astronomie et la géométrie. Et ce socle un peu plus tard, hein, dans le siècle, est complété par la philosophie, avec le retour des grands textes de la philosophie aristotélicienne, dans les traductions latines faites sur l'arabe. Mais au moment où Sacro Bosco enseigne, voilà, on enseigne essentiellement le triwium et le quadriwium, et ça constitue le début, en tout cas dans le modèle parisien, ça constitue le début des études supérieures, et ça correspondrait en fait plus ou moins aujourd'hui, en termes d'âge, hein, au lycée et à la licence.
Donc, il s'adressait à un public de plutôt... adolescent tardif, on va dire, 15-16 ans jusqu'à une vingtaine d'années. Ouais.
C'est ça, hein, de 15-16, 14-15, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de régulation exacte de l'âge d'entrée comme aujourd'hui. Mais donc, on sait, hein, de manière certaine, c'est que le cycle est prévu pour durer 6 ans, ce cycle des arts libéraux. Et donc, effectivement, on y entrait probablement vers 15 ans. En tout cas, il faut avoir au moins 21 ans pour prétendre ensuite à la maîtrise. Mmh. Alors donc, permet de... Voilà.
On va, Violaine Giacomotto Chara, se pencher bien sûr en détail sur le traité de la sphère. Jean Sacro Bosco, ce qui est pratique, c'est qu'il a priori pas une bibliographie extrêmement fournie, donc on va pas avoir à faire un tour d'horizon trop long sur ses autres œuvres. Mais que peut-on en dire de ses autres écrits?
Alors, ces autres écrits sont intéressants parce que ça confirme quand même fondamentalement qu'il était mathématicien, en tout cas bien formé en mathématiques, parce que tout ce qu'on a conservé a trait aux mathématiques. Alors, en sachant qu'on a peut-être perdu des choses, hein, comme toujours, on ne connaît que ce qu'on a. Mais on sait qu'il a écrit un manuel d'arithmétique. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi un manuel. Donc, on a un manuel d'astronomie, un manuel d'arithmétique. Et donc, la trace assez nette du fait que ses écrits ont été influencés par sa pratique de pédagogue. Et puis, dans les écrits importants, il y a aussi un traité sur la mesure du temps. Un compute, donc le De Anni Ratione, De Computo Ecclesiastico, c'est un autre titre qu'on lui donne, qui est resté célèbre parce que Sacro Bosco a déjà fait, comme beaucoup d'autres à son époque, hein, a pris conscience du décalage entre l'année civile et l'année solaire, et il réclame une réforme du calendrier, une réforme du calendrier qui n'a eu lieu finalement qu'à la fin du XVIe siècle, en 1582. Il y a aussi un traité des cadrans, autant que je sache, parce que là, ça n'est pas ma spécialité directe, mais l'attribution à Sacro Bosco est discutée pour ce texte-là. Oui.
Alors, on parle de ce traité de la sphère qui aurait été écrit aux alentours de 1220. Avant de plonger dans les pages de ce traité, d'en entendre un extrait dans notre archive du jour, j'aimerais que vous nous expliquiez ce que recoupe ce mot sphère, quelle réalité décrivait ce terme-là au XIIIe siècle.
Alors, le terme de sphère, oui, parce que le titre, hein, qu'on donne en général au traité, sachant que dans un manuscrit médiéval, il n'y a pas de page de titre fixée par l'auteur, hein, donc le titre usuel, c'est « Traité de la sphère » ou « La sphère du monde ». Mmh. Alors, cette sphère du monde, ça n'est pas le globe terrestre, même si la Terre est ronde, c'est la sphère du cosmos dans son ensemble, sachant que pour un homme du XIIIe siècle, comme Sacro Bosco, le cosmos est géocentrique, la Terre est au centre, et ce cosmos surtout est fini, il est fermé, on peut le représenter comme un objet achevé, une sorte de sphère, comme une sphère de verre, enfin, on peut en donner d'ailleurs à la plupart des gens du voir en représentation dans des musées, des sphères armillaires, et qui sont ces représentations du système céleste. Donc, le monde entier est conçu comme une sphère parce que c'est la forme la plus parfaite depuis les Grecs. Donc, la sphère du monde, c'est la sphère de l'ensemble de l'univers. Ouais, ce que nous, on appellerait l'univers.
Des sphères qui s'enchassent elles-mêmes, voilà, avec un univers qui a une forme de sphère, et dans ces sphères, d'autres sphères que sont les planètes, et au centre, la planète Terre, bien sûr. Alors, quelle était la volonté de Jean Sacro Bosco, pédagogue? Pourquoi voulait-il écrire ce manuel? Est-ce que c'est que l'astronomie était inaccessible à cette époque, cette astronomie qui était largement empruntée à Ptolémée et à son Almageste?
Alors, inaccessible, non, mais comme je l'ai dit, l'enseignement des mathématiques, en tout cas, dans la tradition de la fin de l'Antiquité, fait partie des enseignements fondamentaux. L'astronomie a toujours suscité l'intérêt par ailleurs, hein, des lecteurs, des lettrés, parce que évidemment, connaître les cieux, pouvoir prévoir les mouvements des planètes, c'est extrêmement important. Et puis, donc, il y a une tradition d'enseignement des mathématiques avant les universités, dans les écoles, dans les ancêtres de l'université, qui sont les grandes écoles religieuses urbaines du Moyen-Âge. Et puis, il se produit quand même quelque chose d'important, qui est que le texte de l'Almageste, donc ce grand traité mathématique du savant Alexandrin Ptolémée, qui est écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, le texte de l'Almageste est traduit à partir d'une version arabe vers le latin à la fin du XIIe siècle, autour de 1175 à peu près, par un des grands traducteurs de l'époque, qui est Gérard de Crémone, qui a donné aussi beaucoup de traductions des textes d'Aristote. Donc c'est le début du grand retour de textes grecs autrement que de seconde main, dans des traductions du latin sur l'arabe, certes pas directement sur le grec, mais on retrouve le texte. Et donc la traduction de Gérard de Crémone, qui date de la fin du XIIe, hein, autour de 1175, circule très rapidement dans toute l'Europe, et le traité de la sphère, on peut imaginer qu'il a été guidé par la double volonté de fournir un manuel à la jeune université de Paris, et puis un manuel qui soit le reflet, alors très sommairement résumé, de cet Almageste qu'on avait, qui recirculait grâce à la traduction.
Oui, l'Almageste n'est pas forcément digeste, il n'y a pas de rime là, mais non. Là, du coup, ce que fait voilà. Jean Sacrobosco, c'est un manuel vraiment pédagogique, sans calcul, à destination des étudiants. Alors, quoi de mieux pour comprendre de quoi il retourne dans ce traité de la sphère que d'en entendre un extrait lu en guise d'archive? Je vous propose d'écouter un passage de la première partie du traité de la sphère de Jean Sacrobosco dans sa traduction française réalisée par Guillaume Desbordes à la fin du XVIe siècle. La lecture vous est faite par Laurent Blanpin.
Des parties du monde, et quelles sont ces parties? L'universelle machine du monde est divisée en deux parties, la région céleste et la région élémentaire. L'élémentaire est continuellement ouverte et sujette à l'altération. Elle se divise en quatre parties, car la Terre, comme centre du monde, est située au milieu du dit monde, et alentour d'elle est l'eau. Alentour de l'eau, l'air. Alentour de l'air, le feu pur et clair, lequel touche le ciel de la lune, comme dit Aristote au livre des météores. Car ainsi l'a constitué et disposé le glorieux, tout-puissant et très haut Dieu. Et ces quatre parties s'appellent éléments, lesquels de même tour à tour s'altèrent, corrompent et se régénèrent. Ces éléments sont des corps simples, qui ne se peuvent diviser en parties ayant des formes différentes, du mélange desquels se font les diverses espèces des choses engendrées et produites. Or, chacun des trois environne tout alentour de la Terre, sauf là où la siccité, sécheresse de la Terre, résiste à l'humidité de l'eau et reste découverte pour la conservation de la vie des animaux. Enfin, tous les éléments sont mobiles, excepté la Terre, laquelle, comme étant le centre du monde, par sa pesanteur, fuyant de tous côtés également le grand mouvement des extrémités, tient et possède le milieu de la sphère ronde. De la région céleste. Alentour de la région élémentaire est la région céleste, claire et luisante, laquelle, par son essence immuable, est exempte de tout changement et ne reçoit aucune variété. Néanmoins, tourne circulairement avec mouvement continuel et de ce fait est appelée des philosophes quintessence, à laquelle appartiennent 9 sphères, comme ci-dessus avons dit, c'est à savoir de la Lune, de Mercure, de Vénus, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, des étoiles fixes et du dernier ciel.
Voilà, Violaine Giacomo Chara, on retrouve ce texte de Jean Sacrobosco avec cette légèreté propre aux textes médiévaux. Pourquoi avoir fait ce choix de passage-là pour illustrer le contenu de ce traité de la sphère? Expliquez-nous voilà, la volonté qu'il y avait derrière ce choix de passage et pourquoi, selon vous, il illustre bien ce qu'est ce traité de la sphère.
Alors, je l'ai choisi parce qu'en fait, il décrit justement l'ensemble de cette sphère du monde avec la partie sublunaire qui correspond au monde physique et biologique, l'ensemble des éléments, et puis la série des sphères emboîtées. Et c'est le début du traité, donc c'est le moment où on pose finalement le décor, hein, la première description astronomique de l'ensemble du système cosmique tel qu'on le connaît alors. On perçoit bien, voilà, cette façon qu'avaient les hommes de se représenter les choses. Et puis, on entend aussi, on entend bien l'effet du géocentrisme, c'est-à-dire le fait que ça correspond finalement, contrairement à ce qu'on pense souvent, hein, cette vision du monde, elle correspond à ce qu'on peut observer. Elle est fondée sur l'expérience. Si vous sortez dans votre jardin la nuit et que vous observez à l'œil nu, vous allez voir cette hiérarchie des planètes dans l'ordre que Sacrobosco donne et qui correspond en fait tout simplement à ce qu'on observe, hein, quand on regarde des choses depuis la Terre, dont on ne sent évidemment pas le mouvement. Voilà. Et donc, c'est ce qui fonde ensuite la structure du traité.
Comment on peut, du coup, la caractériser? Comment on peut décrire ce traité? Et comment il s'organise, surtout? Je crois que on n'a pas parlé d'ailleurs de la taille, mais ce n'est pas un texte qui est finalement aussi long que ça.
Non, alors c'est un texte qui est court. Si on l'édite aujourd'hui, ça fait quelques dizaines de pages tout au plus. Hein. Il est vraiment bref, organisé en petits chapitres très brefs. Et en fait, il est découpé en quatre parties qui sont de plus en plus mathématiques. Alors, ce qu'on vient d'entendre fait partie de la première partie qui est plus descriptive. C'est aussi plus facile à écouter, hein, pour les auditeurs. Mmh. Donc, la première partie, comme l'indique son titre, qui a été donné, décrit en fait le nombre de ces sphères emboîtées les unes dans les autres, hein, la sphère étant elle-même composée de ces sphères en poupées russes, et décrit la forme générale du monde. Alors, c'est là aussi qu'on trouve, par exemple, la démonstration de la sphéricité de la Terre. Hein, ça fait partie de cette première partie. Le monde est rond et au centre, la Terre est ronde aussi. La deuxième partie correspond à la description des cercles imaginaires que l'on trace sur la sphère céleste et sur la sphère terrestre pour pouvoir décrire les mouvements du Soleil et des étoiles et pour pouvoir décrire la structure de la sphère. Donc déjà à cette époque-là, évidemment, comme depuis l'Antiquité, on trace un équateur, des pôles, des tropiques, des colures, hein, c'est-à-dire ce qui correspond en fait au méridien, l'écliptique, qui correspond au parcours visible du Soleil autour de la Terre à travers les 12 constellations qui constituent le zodiaque. Et on dessine aussi la ligne d'horizon. Voilà. Et donc, toutes ces lignes qui existent encore aujourd'hui, qu'on trace sur la sphère terrestre, sont d'abord tracées sur la sphère céleste et puis projetées sur la Terre. Mmh. Ça permet le calcul du lever des heures, du lever et du coucher des étoiles et de la variation des durées du jour et de la nuit. Donc ça, c'est le livre 3. Donc tous les calculs pratiques, hein, qui permettent, voilà, de mesurer le temps. Et dans le livre 3, on a aussi la division de la sphère terrestre en grandes zones climatiques, les deux zones dites glaciales autour des pôles, la zone dite torride où on pense que personne n'habite, hein, entre les deux tropiques, et puis les zones tempérées. Et ça nous amène à une quatrième partie. Pardon.
Oui,
une quatrième partie qui est un peu plus mathématique, puisque c'est là qu'on a en fait la description rudimentaire, si vous voulez, des mouvements des planètes, qui est quelque chose de très compliqué, le mouvement des planètes autour de la Terre. Et donc, ça débouche ensuite, pour ceux qui veulent, sur une possibilité de faire de l'astronomie de manière plus poussé en allant chercher d'autres ouvrages plus compliqués.
Voilà, ça c'est pour la structure de ce traité de la sphère de Jean Sacrobosco. Il y a aussi, c'est évidemment un ouvrage qui est illustré. Comment, Violaine Giacomotto Chara, peut-on expliquer le succès de ce manuscrit et quelle preuve finalement on a de ce succès public et de sa circulation, de sa grande circulation au Moyen-Âge, à l'époque où il n'y a pas encore l'imprimerie?
Alors, on a des preuves objectives, enfin des preuves liées à l'histoire du manuscrit. On sait que ça a été un très très grand succès. Bon, d'abord parce qu'il est cité par des lettrés. Il a été très rapidement commenté par des gens qui étaient eux-mêmes des enseignants de philosophie ou de mathématiques et qui se servaient du traité dans leurs cours et qui, à partir de là, développaient un commentaire et des explications. Il est effectivement, il circule hein, en général avec de petites illustrations pratiques. Donc, il est très probable que le travail de Sacro Bosco ait été jugé à son époque hein, comme extrêmement efficace, pédagogique, très pratique, et que c'était sans doute il était tout simplement considéré comme le plus pratique et des ouvrages d'astronomie. Et les traces objectives de son succès sont liées au fait qu'on a un très grand nombre de copies manuscrites conservés et qu'on en trouve hein, dans différents endroits d'Europe. Donc évidemment, par rapport à un monde dans lequel les ouvrages ont pu être effacés, détruits, quand on a un grand nombre d'exemplaires conservés, c'est l'indice qu'il y a eu énormément de copies. Et leur répartition dans les bibliothèques européennes est aussi un indice de circulation.
Donc ça, on sait que le traité de la sphère a donc un grand, grand succès dès le Moyen-Âge. Et ce succès, il va se prolonger au-delà du Moyen-Âge, notamment avec l'arrivée de l'imprimerie au milieu du 15e siècle, avec en 1450, donc du coup en Europe, l'imprimerie commence à se développer. Quand est-ce qu'on imprime pour la première fois le traité de la sphère et pourquoi cette date nous renseigne sur l'importance qu'avait ce traité-là?
Alors, on l'imprime pour la première fois en 1472. Et donc, c'est une date qui nous renseigne, en fait, pour deux raisons. Le premier livre imprimé, c'est 1453, hein, la Bible de Gutenberg. Donc, 1472, vous voyez, on est moins de 20 ans après. C'est donc très rapide. Et on sait que les premiers textes imprimés avaient tendance à être des textes dont les imprimeurs libraires savaient qu'ils les vendraient. Hein, évidemment, ouvrir un atelier d'imprimerie, une boutique de libraire à cette époque-là, c'est un investissement important. Et donc, on ne prend pas de risques. On vend des valeurs sûres. Et donc, les premiers ouvrages qui ont été imprimés sont rarement des nouveautés. Hein, c'est en général ce que nous, on appellerait
des
best-sellers
sûres
du Moyen-Âge. Voilà. Et donc, l'impression dès 1472 hein, signale évidemment que le texte était un grand succès en manuscrit puisqu'on s'empresse de l'imprimer. En plus, on a deux éditions en 1472, une à Venise, une à Ferrare. Hein, et très rapidement, on a des rééditions fréquentes. Alors là aussi, c'est un indice important du succès parce que on réimprime un livre quand il est épuisé, évidemment. Et ces rééditions se succèdent très rapidement et elles se succèdent en faisant tache d'huile. Hein, c'est-à-dire que on voit assez rapidement, par exemple, outre des rééditions à Venise même, qui est à cette époque-là une très très grande ville d'imprimerie, on voit ensuite en 1478 une édition à Milan, puis en 1480 à Bologne, etc.
Alors, on connaît, je crois, une centaine d'éditions pour le traité de la sphère à partir du moment où l'imprimerie se développe, c'est ça?
Alors, on en a actuellement plus de 200 recensés entre 1472 et 1673, donc en 200 ans, et probablement plus que ça, parce qu'il y a eu des travaux récents qui font état d'un plus grand nombre encore d'éditions. Donc, c'est colossal.
C'est colossal pour cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, le traité de la sphère n'est pas forcément le traité astronomique qu'on connaît le plus aujourd'hui. Moi, j'aimerais comprendre, Violaine Giacomotto Charras, qui change entre le manuscrit médiéval, on va dire le premier, celui qu'a écrit Jean Sacro Bosco, et ces versions imprimées 400 ans plus tard, parce qu'il y a quand même une évolution du savoir astronomique. Qu'est-ce qui a vraiment... comment ce livre-là a-t-il muté?
Alors en fait, c'est un livre qui sert au sens littéral de prétexte hein, ou d'avant-texte. C'est-à-dire que de même que dès le Moyen-Âge, on le commente, on observe que peut-être parce qu'il est très simple, il joue son rôle pédagogique, mais du coup, il permet aussi très facilement qu'on y ajoute des éléments. Et donc, il sert un peu de noyau à d'autres astronomes, à d'autres mathématiciens, pour y ajouter leurs propres remarques. Donc, il fournit finalement de plus en plus une structure, un plan, dans lequel on se glisse. Et dans les éditions qu'on observe à partir du XVe siècle, on voit se dégager plusieurs tendances. On peut éditer le texte de Sacro Bosco avec des commentaires, anciens ou nouveaux. Donc, on a des éditions dans lesquelles on va trouver des commentaires médiévaux et puis des commentaires récents, parce qu'on continue à le commenter. On voit aussi beaucoup d'éditions pédagogiques avec des annotations. Donc en fait, même matériellement, si vous voulez, le texte est divisé en chapitres. Et puis dans un petit caractère différent, sous le chapitre, on a des petites notes qui complètent ou qui expliquent ou qui mettent à jour le savoir qui est contenu, des schémas explicatifs supplémentaires. On peut l'éditer aussi en recueil avec d'autres traités d'astronomie. Par exemple, au XVIe siècle, on aime beaucoup l'éditer avec des traités pratiques sur les instruments, des traités de l'astrolabe, des traités de l'anneau astronomique. On se met aussi à le réécrire. On peut l'adapter. On le transforme en fait en un prétexte.
Et en archétype aussi, d'une certaine façon, puisque ça devient une sorte de genre.
Exactement. Ça devient une sorte de genre scientifique qui fait que chacun peut reprendre ce titre extrêmement évocateur, qui est parlant, puisque beaucoup de gens, parmi ceux qui savent lire, ont lu ce texte ou ont entendu parler. Et en fait, on utilise ce modèle du traité de la sphère pour produire de nouveaux ouvrages d'astronomie qui, parfois, n'ont plus grand-chose à voir avec le texte de Sacrobosco, qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus riches, et qui intègrent des nouvelles données, par exemple cartographiques, géographiques, après les grandes découvertes, qui intègrent les apports de l'astronomie arabe qu'on continue de découvrir, etc.
Et comment passe-t-on du public étudiant du Moyen-Âge auquel enseignait ce clerc Jean Sacrobosco à ce public d'amateurs éclairés, à ce public d'humanistes de la Renaissance?
Alors justement, parce que comme le traité est très pédagogique, il peut être lu finalement par n'importe qui, même par des gens qui n'ont pas fait d'études supérieures, et que dans les éditions du XVIe, on l'accompagne d'explications et d'illustrations. Et donc le XVIe siècle est vraiment très intéressé par l'astronomie. On fait en fait des éditions pour ce public-là. Alors un signe important, c'est que par exemple, Ronce Finet, qui est le mathématicien de François Ier, et qui enseigne au Collège Royal, et donc pas à l'université, c'est le premier titulaire de la chaire de mathématiques, est chargé par François Ier de vulgariser les mathématiques. Mais en fait, en faisant ça, il fait sortir le traité de l'université et il le met en circulation dans un public qui est plutôt un public de lettrés. D'où, et c'est aussi quelqu'un d'ailleurs qui va écrire ensuite sa propre sphère. Donc on voit bien comment l'usage pédagogique le transforme en un ouvrage plutôt d'initiation pour un public non étudiant et puis pour comme support de toute une écriture qui se fait aussi en langue vernaculaire. C'est un texte qui a été beaucoup traduit.
On approche de la fin de notre discussion. Violaine Giacomo-Toshara, j'aimerais, en guise de... Alors bien sûr, Copernic, l'émergence du modèle héliocentrique va finalement faire tomber en désuétude tous ces écrits, tous ces traités qui partaient d'un modèle géocentrique. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce traité de la sphère? En quoi incarne-t-il finalement l'évolution du rapport au livre de science entre le Moyen-Âge et la Renaissance?
Alors, il est très intéressant parce qu'il est à la fois signe de la longue persistance du système aristotélicien dans notre façon de voir le monde et notre enseignement, puisque c'est quand même une remarquable stabilité. Et en même temps, il est incroyablement plastique. Et il montre la façon dont les hommes de cette époque-là, de ces époques successives, pouvaient s'emparer d'un savoir constitué pour le modifier. Et en fait, le savoir se fait par ajout. C'est un très bon exemple de la notion d'auteur au sens étymologique. On n'invente pas quelque chose de neuf, on augmente. Voilà.
On augmente
ce qu'on a reçu en héritage. Voilà, on augmente. Et l'auteur, auctor, c'est augmente, c'est augurer, augmenter. Et en fait, il reste vraiment en circulation, mais sous des formes modernisées, parfois accompagnées de commentaires qui l'ont fait quintuplé de volume, jusque dans les années 1650. Donc il faut vraiment attendre qu'on change le système du monde, finalement, pour qu'on renonce au traité de la sphère.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Violaine Giacomo-Toshara, de nous avoir fait faire le tour de la sphère en 28 minutes. Je rappelle le titre du livre que vous avez co-signé avec Sylvie Noni, La Terre plate, généalogie du nid des fosses, paru aux éditions des Belles Lettres et réédité en poche dans la collection Folio Histoire. On avait d'ailleurs reçu Sylvie Noni dans Science Chrono pour parler de l'origine du mythe de la Terre plate. On mettra le lien vers l'émission sur notre page du jour. Merci encore à vous. Cityscapes turn to dust. Apocalypse par Cigarette After Sex. C'était le choix musical avisé de notre réalisatrice du jour, Nina Blampin, qui termine aujourd'hui en beauté son stage de 3e dans Sciences Chrono sur France Culture, et on la remercie. Après avoir fait le tour des sphères et parlé d'histoire des sciences, il est temps à présent de faire un tour d'une actualité très chaude qui nous ramène dans les temps très lointains. On ouvre à présent la porte à l'archéologie.
Sciences Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
Après avoir été le foyer de la découverte d'Homo antecessor au milieu des années 1990, l'un des sites de la Sierra de Atapuerca en Espagne vient à nouveau de repousser la période d'occupation du genre Homo en Europe de l'Ouest. Pink, c'est le surnom donné à l'individu dont on a retrouvé une mâchoire datée entre 1,4 et 1,1 million d'années, un record d'ancienneté pour cette partie de l'Europe. Mais comment définir à partir de fragments de crâne l'espèce à laquelle appartenait cet individu bien plus vieux que Néandertal et Sapiens, mais aussi plus vieux qu'Homo antecessor? Que peut aussi nous apprendre cette belle découverte sur les premiers peuplements de l'Europe? Pour nous expliquer l'importance de cette découverte d'un nouveau venu dans l'étude de l'évolution des homininés, nous avons le plaisir de recevoir une chercheuse qui connaît bien ces sites d'Atapuerca, Amélie Vialet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléanthropologue, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous êtes spécialiste de l'étude d'Homo erectus et vous collaborez avec le centre de recherche de Totavel, mais aussi avec divers sites à l'étranger, dont Atapuerca en Espagne. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette découverte réalisée en 2022 par les équipes de l'Institut catalan de paléoécologie humaine et évolution et par le Centre national espagnol de recherche sur l'évolution humaine. Une découverte qui a requis, comme toujours en archéologie, toute une série d'analyses avant la publication de la très belle étude dans la revue Nature le 22 janvier 2025. Alors, on va commencer par Atapuerca, Amélie Vialet, si vous voulez bien. J'aimerais que vous nous décriviez l'ambiance générale de ce site. Où est-ce qu'on se situe? C'est un peu la Mecque pour les paléanthropologues d'Europe.
Oui, voilà. Il faut y aller, en fait. C'est inoubliable.
J'aimerais bien y aller.
Le séjour sur place. C'est vraiment toute une ambiance. Hein. C'est la Sierra de Atapuerca, donc c'est tout un massif calcaire qui comporte en fait deux grandes parties parce qu'il y a toute une série des sites qui ont été mis au jour par l'aménagement d'une petite voie de chemin de fer. En fait, c'est pour l'extraction du calcaire, donc c'était uniquement pour faire circuler les petits wagonnets et puis donc...
Dans les
pouvoir,
années 80, c'est ça
C'est même tout début du 20e.
Ah, c'est le début du 20e.
Ouais, complètement. Et donc, en fait, l'aménagement de cette petite voie de chemin de fer, en fait, elle a sectionné, elle est passée au travers de ce massif et elle a mis au jour les grands remplissages archéologiques. Je dis grands parce que, dans le cas du site qui nous intéresse, Cima de Elefante, c'est une vingtaine de mètres de haut, mais Grandolina, c'est un peu plus, c'est presque une trentaine de mètres de haut. Donc, ce sont vraiment des sites, des remplissages assez gigantesques qui ont justement été mis au jour un petit peu par ce hasard-là cette activité de carrière. Et puis après, il y a toute une autre partie qu'on voit moins, qu'on devine, mais qu'on voit moins. C'est toute la partie qui est encore souterraine, qui est encore en réseau karstique et dans laquelle il y a énormément de sites également.
Vous dites des noms un peu magiques, Grandolina, Cima dell'Elefante. Comment s'organise ce site justement? À quoi correspondent chacun de ces noms-là? Il n'y en a pas que deux, il y en a plusieurs. Décrivez-nous ces spots.
Oui, voilà. Alors si on reprend un petit peu notre... il faut se rendre compte qu'il y en a une densité de sites qui est exceptionnelle, en Europe très clairement, mais quasiment dans le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle les collègues espagnols ont obtenu l'inscription de l'ensemble de ces sites au patrimoine mondial de l'humanité en 2000. Mmh. Voilà. Et donc, c'est tout à fait justifié. Du coup, aussi, ils ont une obligation de les rendre un peu accessibles. C'est aussi pour ça qu'il y a vraiment beaucoup d'aménagements et que vous pouvez à y aller, c'est le mieux pour les découvrir par vous-même. C'est très lié aussi au musée d'évolution humaine qui est développé dans la ville de Burgos, qui est lui aussi assez spectaculaire. Donc tout ça est vraiment très bien fait pour le grand public. Donc si on reprend notre schéma, on arrive dans ce qu'ils appellent la Trinchera del Ferrocarril, c'est-à-dire cette petite voie ferrée. Et donc là, on a de part et d'autre ce massif calcaire qui monte très haut, on le disait, sur une trentaine de mètres de haut. Et donc on rentre dans cette tranchée, on a tout de suite accès au site de Cima de Elefante. Et puis, si on avance un petit peu plus loin, on va trouver d'autres sites comme, par exemple, Galeria, ou un autre site qui est un peu au bout, on pourrait dire, de ce système-là, qui est celui de Grandolina. Et si on est en contexte souterrain, auquel on accède donc par un autre endroit, à ce moment-là, on va rentrer dans une très grande grotte qui s'appelle la Cueva Mayor. Et puis, en circulant assez longuement quand même sous terre, on va arriver jusqu'à la Cima de los Huesos. Et là, c'est une espèce de petit puits, de petite cheminée carrière karstique sur 10-15 mètres de haut. Vous descendez à la petite échelle de Cordelette, hein, c'est pas simple. Ouais. Et on arrive dans une toute petite salle dans laquelle donc ont été déposés pas loin de 28 individus. Ce qui fait que les archéologues ont retrouvé jusqu'à présent plus de 6000 restes de ces 28 individus.
C'est colossal.
Voilà, donc c'est la plus grande collection de restes humains connus actuellement. Et alors là, c'est un site un petit peu plus récent. Hein, les datations, elles oscillent entre 350 et 430 000 ans. Donc par rapport aux 1,4 millions que vous évoquiez pour Cima delle Fante, on est assez loin.
Avant de revenir à Pink, donc on parlait de la Cima de los Huesos, donc ce gisement souterrain où on a retrouvé 28 individus voilà, qui datent d'environ 400 000 ans. Il y a d'autres très belles découvertes. Alors elles sont nombreuses, hein, on ne va pas faire la liste de toutes les belles découvertes d'Atapuerca, mais parlons d'Homo antecessor. Donc ça, c'est au milieu des années 90, sur le site de Grande Dolina. Qu'est-ce qu'on a trouvé avec Homo antecessor, et parce que c'est important de le décrire pour ensuite aller vers Pink et comprendre l'espèce.
Voilà, ces sites sont tellement riches que si vous les mettez bout à bout, vous documentez toute l'évolution humaine depuis 1,4 million d'années jusqu'à aujourd'hui, quasiment, et en cela, vous passez par plusieurs espèces fossiles. Donc, jusqu'à présent, la plus ancienne qui avait été identifiée par les collègues espagnols, c'est à Grande Dolina, et là, c'est en effet les Homo antecessor. Alors, l'histoire, enfin, la découverte d'Homo antecessor, c'est assez intéressant, c'est parce que finalement, bon, évidemment, quand vous abordez ces sites avec une très haute stratigraphie, vous avez envie de savoir où vous allez. Ouais. Donc, il vous faut faire une espèce de sondage qui va du haut vers le bas pour essayer de savoir à quoi vous attendre et comment ça fonctionne. Et en plus, là, on est dans les années 90 et les collègues espagnols sont très motivés parce qu'ils sont très énervés contre un article qui a été publié par une école de l'Europe du Nord, qui est un petit peu une école, si vous voulez, partisane de ce qu'on appelle la chronologie courte et qui disait qu'il n'y avait pas d'occupation humaine en Europe avant 500 000 ans. Mmh. Et eux, ils savaient qu'ils avaient plus vieux. Et donc, ils ont entrepris ce sondage assez grand, de 3 mètres sur 3 mètres, là, de haut en bas de la stratigraphie. Et quand ils sont arrivés au niveau qu'ils ont appelé TD6, là, ça a quand même été la surprise, parce qu'ils ont trouvé des restes humains et de très nombreux restes humains. Et donc, ils ont trouvé essentiellement des restes de jeunes, d'ailleurs, d'adolescents, d'enfants, quelques adultes jeunes. Beaucoup de restes fragmentaires, hein, c'est toujours des ossements fracturés, c'est toujours quelques dents, etc. Et ils ont été étonnés par la morphologie de certains ossements, notamment justement une face, hein, parce qu'on va reparler de face avec Pink. Ils ont notamment trouvé un fragment de face. Alors, il faut savoir que c'est assez rare parce que la face est assez fragile, parce qu'en fait, vous savez, dans notre face, on a les sinus, le sinus maxillaire, le sinus frontal. Souvent, le sinus frontal.
Cette cavité-là, finalement, elle fragilise.
Elle fragilise complètement. Alors, on ne les connaît pas toujours, mais on le sait quand on a une grosse infection et qu'on est très enrhumé. Voilà, ben, c'est exactement ces cavités. Donc, les faces sont rares parce qu'elles ne se conservent pas beaucoup. Et donc, à Grande Dolina, il y a cette petite face que les Espagnols ont étudiée lorsqu'ils l'ont mise au jour. Et ce qu'ils tout de suite frappé, c'est la morphologie, on pourrait dire, un peu moderne, entre guillemets, c'est-à-dire qui nous ressemble à nous, Homo sapiens, beaucoup. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de dépression, de cavité au centre de la face qui creuse un peu comme nos joues, la creuser. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop ailleurs dans le registre fossile. Donc ça les a interpellés et c'est pour ça que entre le fait que c'était les fossiles les plus anciens d'Europe à l'époque, on est à 850 000 ans, et le fait qu'ils aient cette morphologie qu'on ne connaissait pas trop, c'est-à-dire avec des caractères évidemment plus archaïques, avec quelques petits caractères néandertaliens, on y reviendra peut-être, mais surtout avec cette face très Homo sapiens, eh bien ils ont ressenti le besoin de créer ce nouveau nom d'espèce qu'on appelle Homo antecessor.
Un nouveau taxon, alors ce n'est pas le plus vieux individu d'Europe, puisque ensuite il y a l'homme de Manissi, l'Homo georgicus. Écrivez-nous ce personnage-là et où est-ce qu'on l'a retrouvé et voilà, comment a-t-il reculé encore la date de ce peuplement de l'Europe ?
Oui, alors c'est vrai qu'Homo georgicus s'est découvert quelques années après, plutôt autour des années 2000. Donc là, on est en Géorgie, donc pas très loin de Tbilissi, donc c'est le site qui s'appelle Tmanissi. Et là, on est coincé entre le Petit et le Grand Caucase et là, on est très très étonné de cette découverte parce qu'on ne pensait pas en fait que les humains aussi anciens allaient franchir justement des barrières naturelles comme ça. Celle-là. Alors, on s'était aussi imaginé que c'était plutôt les Homo erectus, et d'où leur nom d'ailleurs, érigés, bipèdes, de grande stature, qui savent très bien marcher, courir, etc. On avait pensé que c'était plutôt eux qui sortaient d'Afrique et qu'on allait retrouver ailleurs. Or là, les fossiles de Tmanissi sont des petites formes, c'est des petits individus qui sont plutôt autour d'un mètre cinquante, petite capacité crânienne, entre 500 et 700 centimètres cubes. Nous, on est à 1500 centimètres cubes. Et avec voilà, des capacités techniques techniques très, très modestes. Voilà. Donc, c'est pas du tout les humains qu'on attendait là. Et on les attendait pas sur une période aussi ancienne, puisque là, on est autour de 1,8 million. Donc, il est très clair que ces humains, on va dire globalement Homo erectus, sortent d'Afrique assez tôt, et qu'il y a une expansion sans doute à partir de 2 millions, 2,5 millions, quelque chose comme ça, qui fait qu'on va les retrouver à Admanissi à 1,8 million. On va les retrouver aussi très vite à l'autre bout de la planète. On les retrouve en Asie orientale, puisqu'on les retrouve en Indonésie aujourd'hui, hein, enfin sur l'île de Java notamment, dès 1,5 million à peu près. Donc très vite, on les retrouve assez loin en Asie, mais pour l'Europe, on n'avait pas de fossiles aussi anciens.
Alors, on en revient à Atapuerca. Moi, j'aimerais aussi, pour clore aussi sur la description de ce site, expliquer les raisons pour lesquelles ce site est présente autant de fossiles. Est-ce que déjà c'était lié à ce site-là géographiquement, d'un point de vue géographique, le fait que ce soit un lieu de passage privilégié, et quelles conditions de conservation fait qu'on retrouve autant de fossiles à Atapuerca?
Voilà, oui, c'est exactement les deux. C'est-à-dire que, en effet, géographiquement, c'est un endroit un peu stratégique, une zone de passage, c'est une grande vallée assez accueillante. On se rend compte aussi que, quand même, globalement, ces occupations, elles ont lieu à des périodes de temps où on a un environnement, paléo-environnement, paléo-climat assez, assez tempéré, hein, donc assez favorable. C'est toujours des carrefour en fait aussi un peu de ressources diverses, donc sont des lieux de vie tout à fait propices. Et après, c'est vrai que ça suffit pas que les humains soient passés là et habiter ces territoires, il faut qu'ils aient laissé des traces, il faut que ces traces elles aient été conservées, puis après il faut même qu'on arrive sur place pour les découvrir. Donc là particulièrement, ces remplissages se sont très bien conservés, parce qu'il n'y a pas eu dans tous ces réseaux karstiques, très souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a ensuite des systèmes de vidange, il y a un passage de l'eau, du ruissellement, etc., qui vont un petit peu éliminer ces traces et ces remplissages. Là, ce n'est pas le cas. Ils ont été piégés, fossilisés, ils se sont conservés. Et puis après, cette activité humaine, notamment l'extraction de calcaire sur place, etc., a alerté, en fait, a rendu possible ces découvertes. Et heureusement, c'est Emiliano Aguirre, qui est un paléontologue espagnol qui a disparu il y a quelques temps, mais qui est vraiment un personnage fondamental, parce que c'est lui qui se rend compte du potentiel paléontologique, archéologique des sites, et qui va former une génération d'archéologues, paléanthropologues, préhistoriens, qui sont Juan Luis Arzuaga, Eudald Carbonell et José María Bermúdez de Castro. Et les trois, jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que deux sur trois viennent de céder là, un petit peu leur place à la nouvelle génération, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est eux qui ont géré vraiment la stratégie, j'irais presque d'exploitation, parce que c'est à très grande échelle. C'est tout ça, est à ça, très grande échelle.
Ça me fait penser à ces grands télescopes dont on demande du temps d'observation. Voilà, Atapuerca, c'est un peu la même, la transcription de ça en termes de paléanthropologie. On n'a pas retrouvé beaucoup de traces matérielles à Atapuerca. Est-ce qu'il y a beaucoup d'objets laissés par ces humains anciens, néandertaliens, antécesseurs?
Ah oui, complètement. En fait, il y a des sites qu'on commence à comprendre un petit peu différents. C'est-à-dire que Cima del Elefante, donc Pink, ou alors un autre gisement qui s'appelle Galleria, ce sont plutôt des espèces de trappes naturelles, d'avennes, si vous voulez, de grandes ouvertures dans le karst, qui vont être comblées par tout ce qui arrive du plateau, tout ce qui arrive du dessus. Donc finalement, à Cima del Elefante, à part quelques restes, beaucoup d'oiseaux d'ailleurs, par exemple, qui sont peut-être mort sur place, là, et dont on a le squelette complet, en fait. À part ça, c'est quand même plutôt ce qui va, de façon très sporadique, très occasionnelle, comme ça, tomber au fur et à mesure, être enseveli. Donc là, évidemment, vous allez avoir un petit peu de tout, si je puis dire. Mais après, l'essentiel des sites, on a parlé de Grandolina, l'essentiel des sites, c'est quand même des sites à occupation humaine. C'est-à-dire que là, les groupes viennent dans la cavité, ils ont chassé, ils rapportent l'animal, ils désarticulent la carcasse, ils consomment sur place, ils taillent leurs outils. Donc, à Grandolina, hormis ce niveau TD6, où on a beaucoup de restes humains qui, on ne l'a pas dit, mais ont certainement été cannibalisés, hein, parce que c'est pour ça qu'ils sont très fragmentaires, etc. On a vraiment observé des traces de découpe sur les ossements, comme sur les animaux, hein, donc ils ont été consommés.
Ça, c'est un petit peu l'arlésienne entre nous. Vous reviendrez un jour parler de cannibalisme après histoire.
Avec plaisir. Donc, à part ce niveau à Grandolina, vraiment spécifique avec cette pratique du cannibalisme, sinon, tous les niveaux qui sont au-dessus, hein, qui sont fouillés, TD10, TD8, etc., sont des niveaux qui vraiment ont été, enfin, sont des espèces d'instantanés de vie de ces groupes sur place.
Alors, on est dans la Cima del Elefante, un autre gisement d'Atapuerca dont on a parlé. Qu'est-ce que les paléoanthropologues et les équipes de recherche ont découvert en juin 2022, il y a 3 ans, dans ce gisement? Qu'est-ce qu'ils ont pensé découvrir d'abord?
Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas. Alors, le fait est que le gisement, il est en fait, il est sous la responsabilité de Rosa Huguet, mm-hmm. qui est elle-même paléontologue. Donc, elle n'est pas paléanthropologue. Hein. Alors, j'imagine que voilà, comme tout un chacun, elle rêve quand même de mettre au jour des restes humains. Son rêve est exaucé maintenant. Son vœu est exaucé. Mais c'est vrai que du coup, elle a été un petit peu dans le doute au départ. Elle a plutôt essayé d'identifier un reste animal, quoi. Et puis finalement,
elle croyait que c'était un os de biche ou de,
voilà,
ou de cheval.
Et par élimination aussi, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, et puis finalement, elle a appelé les collègues paléanthropologues qui ne sont pas loin. Pendant les fouilles à Atapuerca, il y a 150 personnes hein, sur le site, et chacun est distribué dans les différentes localités dont on a parlé. Donc, c'est pas très difficile d'avoir un paléanthropologue sous la main. Et donc, je pense que ma collègue Maria Martinon Torres, par exemple, qui a pris la relève justement, qui dirige maintenant ces sites, qui dirige le CENIE, le centre de recherche, et puis qui a repris le site de Penal, qui est en face de Gran Dolina, mais c'est la suite, c'est le même site, en fait, qui a été sectionné par la fameuse voie ferrée. Oui. Et donc, en face à Penal, là, elle est en train d'arriver sur le niveau TD6. Donc, elle est en train de reprendre ce niveau en extension où on va avoir plein de restes humains. Donc, elle a tout de suite fait le diagnostic. Il y avait quand même de fortes chances pour que ce soit donc une face humaine, c'est-à-dire la partie, en fait, sous la cavité orbitaire, hein, sous l'orbite, formant l'orbite, d'ailleurs, du maxillaire et de l'os zygomatique et l'os de la joue.
Alors, quelle question on se pose immédiatement quand on retrouve ces 5 fragments d'une même face? Et comment on va procéder pour obtenir des réponses?
Alors justement, ils ont un très gros labo de restauration avec des personnes très compétentes aussi qui ont fait un travail magnifique pendant quand même plusieurs mois là, pour restaurer au maximum ce fossile. Et une fois qu'on peut un peu le manipuler, on peut un peu l'observer parce qu'il est bien consolidé, c'est vrai qu'on a le face-à-face. C'est ça qui est formidable dans la face, dans cette partie du squelette. C'est que vraiment, vous avez ce face-à-face avec nos ancêtres. On en a parlé ici, d'ailleurs, aussi sur Arago 21, le site de Totavel, par exemple, qui, trouvé en 71, garde cette notoriété importante parce que vraiment, tout d'un coup, vous pouvez observer nos ancêtres. Et puis après, c'est vrai que tout de suite, la question qui les a animés, c'est comme on a justement ce fragment aussi de face dont on a parlé à Gran Dolina, donc à 850 000 ans, pour cet homo antécesseur. L'idée, c'était tout de suite, est-ce que c'est pareil ou pas? Est-ce que c'est proche ou pas morphologiquement? Est-ce que c'est la même population? Ou est-ce que ces deux groupes qui viennent comme ça de façon indépendante dans le temps, hein, donc il y a une espèce de discontinuité dans l'occupation du territoire, ou est-ce qu'il y a une relation d'ancêtre à descendre?
Alors voilà, comment on touche vraiment du doigt cette énigme Pink. Alors Pink, c'est un petit hommage à Pink Floyd, Dark Side of the Moon, la face cachée. Les paléoanthropologues sont parfois un peu poètes, mais voilà, si on en revient à Pink, comment on a pu établir la période déjà à laquelle il ou elle vivait, cet individu, et à quoi ressemblait ce site-là à ce moment-là?
Donc, il y a un petit clin d'œil juste pour le Pink à Rosa Huguet, puisqu'elle s'appelle Rosa justement.
Aussi,
donc
ça, c'est et on la salue parce qu'on l'a eu, on lui a écrit.
Ah oui, d'accord. Ça, oui. Ah, très bien. Donc, voilà, ça, c'est un petit clin d'œil sympathique. Alors, pour les histoires de datation, c'est un petit peu indépendant. C'est-à-dire que dès que vous travaillez sur un site, vous allez chercher à établir ce qu'on appelle le cadre chronostratigraphique, c'est-à-dire pouvoir savoir quand vos couches se déposent, comment est-ce qu'elles sont perturbées, est-ce que, voilà, comment ça fonctionne, le mode de dépôt, et comment ça s'établit dans le temps. Donc il vous faut l'aide des géochronologues qui ont mis au point différents systèmes de datation pour s'adapter en fait à une période de temps. Tout le monde connaît le carbone 14, c'est le principe de la décroissance radioactive, mais ça ne peut s'appliquer que sur une période courte.
Ça va jusqu'à 50 000 ans
à peu près. 50 000 ans. Donc nous, 50 000 ans, c'est pas assez vieux pour nous. Hein. Donc il faut d'autres méthodes. Donc, dans notre labo, on a développé la méthode de l'uranium-thorium, pareil, décroissance de l'uranium en thorium au cours du temps. Et puis là, ce qu'ils ont utilisé, c'est une autre méthode, c'est une méthode d'enfouissement des galets, des galets éventuellement qui ont été taillés, mais de pierres taillées. Mais enfin, la méthode, c'est l'enfouissement, c'est-à-dire qu'à partir, le décompte va commencer au moment où l'objet est enfoui dans le sol. Et là, on utilise l'aluminium et le beryllium. Alors, c'est super parce qu'on travaille sur une période de temps assez ancienne. Là, on est autour du million d'années. Ce qui est compliqué, c'est que comme la période de décroissance, elle est longue, l'écart type que vous avez pour la moyenne de votre datation, il est aussi important. C'est pour ça que là, ils nous disent on est au moins à 1,1 million. Mais on pourrait être jusqu'à 1,4 million. Mais comme ils ont 200 000 ans de fourchette, de marge d'erreur, en fait, du coup, évidemment, ça fait, c'est pas très précis. Voilà. Donc ça, c'est pour la datation. Ils ont fait un gros travail à ce niveau-là. C'est pas simple, hein, et c'est encore un peu discuté. Ils pourraient peut-être à l'avenir revoir un peu cette datation.
Revoir
c'est
pas... à la hausse ou à la baisse?
Peut-être revoir à la baisse, parce que parfois, cette méthode de datation, elle donne des âges très, très anciens. Mmh. Mais voilà. Bon, après, ça, c'est une discussion vraiment technique de professionnels.
En tout cas, ça pose la question, cette période de temps, de l'affinité, ou en tout cas de la parenté de Pink avec une espèce humaine plutôt qu'une autre. Alors, comment procède cette équipe espagnole pour dire à quelle espèce appartient Pink?
Voilà, donc là, c'est uniquement l'anatomie comparée. Ça, c'est notre travail, celui des paléanthropologues. Hein. C'est on observe et on mesure. On essaie de quantifier les formes et essayer de montrer les différences. Donc là, il leur apparaît que cette face, justement, par rapport à celle de Grandolina, elle ne montre pas le creusement là, dont on a parlé, la morphologie un petit peu moderne, entre guillemets, c'est-à-dire qui nous ressemble à nous, les Homo sapiens. Elle ne montre pas ça. Elle a une face, on pourrait dire, un petit peu plus plate, avec une partie qui est sous l'orifice nasal, qui est un petit peu plus prognate. Donc, elle a une architecture qui est un peu différente. Et donc, c'est la raison pour laquelle, selon eux, hein, selon leur analyse, il y a une vraie différence entre Homo antécessor et ce fossile-là. Donc, ils ont préféré l'attribuer à une autre espèce. Et donc, cette autre espèce, pour montrer le caractère justement assez primitif, ils ont plutôt comparé avec des fossiles du même âge ailleurs dans le monde, hein, ou un petit peu plus anciens, donc les Homo erectus, et donc ils ont proposé Homo affinis erectus, c'est-à-dire que c'est pas strictement un Homo erectus, mais ça s'en rapproche.
Une espèce voisine, du coup, d'Homo erectus, c'est ce que veut dire affinis en latin. Moi, c'est une question qui me passionne, c'est de me dire à partir de quand on dit on a affaire à une espèce différente, ou bien ce sont deux individus de la même espèce, mais avec des caractéristiques morphologiques différentes.
Oui, mais c'est très compliqué, ça, en effet. Ça reste très compliqué. Mais pour illustrer ça, quand même, on peut dire que en 2007, vous l'avez rappelé, les Espagnols ont trouvé dans le même site, mais alors à peu près 1,50 m, 2 mètres plus haut. Hein, à l'époque, les fouilles étaient en TD9. Là, on est en TD7, donc on est en dessous. Du coup, ils ont trouvé un fragment, une mandibule fragmentaire. Mmh. Et justement, là, ils n'avaient pas proposé de nom d'espèce. Ils savaient que c'était du genre Homo, attribué au genre Homo, donc c'était Homo, et Homo sans préciser de nom d'espèce, parce qu'ils ne trouvaient pas de caractéristiques qui soient vraiment assez discriminantes, hein, assez diagnostiques pour pouvoir proposer, le rattacher à une espèce déjà décrite, et pas non plus de caractères suffisamment différents pour créer une nouvelle espèce. Voilà. Donc là, cette face, ils considèrent qu'on est dans la même espèce, hein, c'est-à-dire qu'ils mettent dans le même paquet, on va dire, la mandibule, il y a une phalange aussi, et puis cette face. Voilà, donc tout ça, c'est le même groupe de la Cima del Elefante. Mais du coup, la face, avec les caractères qu'elle présente, leur permet d'attribuer plutôt, d'aller plutôt vers les Homo erectus.
Et si on va vers Erectus, du coup, qu'est-ce que ça nous permet de réécrire dans l'histoire du peuplement de l'Europe de l'Ouest notamment? Pourquoi cette affinité avec Erectus est importante à comprendre et
c'est vrai que ça consolide en fait ce scénario qu'on avait envisagé d'une provenance de ces anciens Européens depuis l'Est, plutôt depuis l'Asie, parce que le taxon Homo erectus, c'est quand même plutôt une espèce asiatique. On a quelques fossiles en Afrique de l'Est qui s'en rapprochent, qu'on peut attribuer à Homo erectus, hein, autour d'un 1,5 million, je pense à un fossile comme OH9 par exemple. Mais par exemple, en Afrique, on a des fossiles plus anciens, autour d'1,8 million, et qu'on ne va pas appeler Homo erectus, mais qu'on va appeler Homo ergaster, parce qu'en fait, on ne retrouve pas toutes les caractéristiques morphologiques, ils sont un peu plus graciles, ils sont un peu différents, voilà. Donc globalement, quand même, les Homo erectus, on les connaît quand même mieux en Asie, et on peut intégrer dedans, éventuellement, si on veut avoir une vision un petit peu large, on peut intégrer dedans les fossiles de Dmanisi, qui ont été attribués à Homo georgicus, mais globalement, ça rentre dans cette espèce.
Donc là, on touche du doigt un autre problème avec Homo erectus, c'est l'ampleur de sa répartition géographique et aussi l'amplitude chronologique de sa présence à la surface du globe. Voilà, là, il va falloir qu'on trouve des moyens d'affiner un peu.
Oui, et je pense qu'on peut le faire. Alors, vous savez, en paléanthropologie, il y a des grande tendance. C'est presque cyclique tous les 25 ans. Ouais. Ou alors, il y a aussi des partisans de deux grandes visions de l'évolution humaine. Donc, il y a ceux qui vont regrouper très largement. Alors là, vos Homo erectus, vous les avez partout, même en Europe, en France. Hein, on a le Totavel a été aussi décrit comme un Homo erectus totavelensis. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une vision assez large d'Homo erectus. Et comme vous le dites, du coup, la répartition géographique et chronologique, elle est colossale. Après, moi, je suis plutôt de cet avis-là. Je pense que c'est mieux de pouvoir identifier des petits groupes avec des spécificités parce que ça nous permet quand même de réfléchir à des jalons différents et de faire des analyses aussi, par exemple, cladistiques qui vont nous permettre vraiment de regarder les liens d'ancêtres à descendants entre ces différents petits groupes. Et là, pour les Homo erectus, c'est possible. Par exemple, moi, je ne mettrais pas ce taxon pour les fossiles africains dont on a parlé. Homo ergaster, ça me semble bien. Après, les Homo erectus insulaires, ils sont quand même différents, donc ceux de Java en Indonésie, différents de ce qu'on a en Chine. Donc on a déjà, vous voyez, on est déjà à trois groupes. De Manissi, pour moi, c'est pas directement un Homo erectus. Il a des caractéristiques particulières, donc on peut le garder en Homo georgicus. Et puis on a Homo antécesseur en Europe. Donc voilà, déjà on a atomisé déjà notre planète erectus en cinq espèces comme ça. Et à mon sens, c'est quand même plus simple après pour trouver des articulations.
C'est plus intéressant scientifiquement de considérer voilà ces différentes espèces comme un buisson plutôt qu'un cactus avec trois bras.
Exactement. Voilà, ouais. Et là, c'est vrai que du coup, par rapport à Pink, je veux dire, son apport, enfin son attribution au Homo erectus est intéressante parce que quand même, on affirme cette arrivée depuis quand même l'Asie, hein, plutôt que l'Afrique, puisqu'on le rattache à ces espèces plutôt erectus. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Si on doit penser, du coup, ces scénarios d'arrivée en Europe de l'Ouest d'erectus, est-ce qu'il y a plusieurs arrivées successives? Vous parlez de l'arrivée d'Asie plutôt que de l'Afrique, ça signifierait que, du coup, il y aurait plusieurs vagues aussi potentiellement d'arrivée
en
Europe?
Oui, je crois qu'on est trop simpliste dans notre façon de voir les choses, mais on ne peut pas faire vraiment autrement. On a quelques fossiles à travers la planète, à travers le temps, ça fait des petits points sur la carte, et nous, on essaie absolument de faire des liens, et il n'y en a pas toujours. Donc il faut en effet, nous, vraiment, et puis la génétique de la population actuelle, la paléogénétique, nous apprend ça aussi, qu'il y a un brassage génétique permanent, que donc il y a des vagues d'expansion variées. On pense souvent à la sortie d'Afrique, mais il faut aussi penser peut-être un retour vers l'Afrique. Mm-hmm. Il faut penser une arrivée de l'Asie. Enfin, il faut penser dans
et
tous les sens.
Une arrivée par Gibraltar, est-ce que ce serait possible? Parce que c'est aussi un des scénarios qui est sur la table.
Oui, tout à fait. C'est pas du tout illogique, bien évidemment. En revanche, là aussi, un peu des tendances en paléanthropologie. Je vous disais, il y a la tendance à regrouper ou à au contraire détacher ces petits groupes d'espèces. Et ben là, il y a la tendance à considérer les itinéraires privilégiés de l'ancien monde pour le parcourir. Et c'est vrai que le passage tout droit, là, par Gibraltar, il n'est pas favorisé. Alors, il faut dire qu'on n'a pas d'argument direct. On n'a pas vraiment, par exemple, des fossiles qui se ressembleraient énormément entre l'Afrique du Nord et puis le sud de l'Espagne. On n'a pas encore ces fossiles, par exemple. On n'a pas forcément les industries, les pierres taillées, avec des types de traditions techniques qui seraient vraiment présents aussi de chaque côté de la Méditerranée, de façon à se dire, si, c'est clair, ils sont passés par là. Mais moi, je pense que le bon sens nous oblige quand même à considérer que Gibraltar, ça peut être une
c'est une option. Merci beaucoup en tout cas à vous, Amélie Viallet, d'être venue nous raconter cette histoire de Pink, cette belle découverte d'Atapuerca, sans doute pas la dernière. On aura l'occasion, bien sûr, de reparler à l'avenir de ce site. Et puis, vous viendrez nous parler de paléo-cannibalisme et d'anthropophagie à la préhistoire. C'est promis, on trouvera un moment pour faire cette émission. L'entretien archéologique et Sciences Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Nina Blampin et son assistant de choc Olivier Bétard. Merci à Mineta Jawara et Anthony Thomasson aujourd'hui à la technique. Et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.